Chapitre 23. Tempus est umbra in mente. Une histoire floue. Cla. Un message. Tableau. 1. En troisième, j'avais choisi latin, parce que je trouvais ça cool d'apprendre une langue morte, et parce que mon père m'avait dit que ma mère avait subi le même cours dans la même école avec la même prof, Madame Young. Maman l'a trouvé cool, elle aussi, paraît-il. Quand vint mon tour, Madame Young, qui enseignait également le français, n'était plus très jeune, mais elle était restée cool. On n'était que 8 en classe, mais quand je suis passé en seconde, il n'y avait pas de cours de latin deuxième année, car Madame Young avait pris sa retraite et cet enseignement avait été abandonné. Le premier jour, Madame Young nous demanda si on connaissait des expressions latines. Carla Johansson leva la main et proposa « carpe diem », ce qui voulait dire « profiter de l'instant présent ». Comme personne d'autre ne se manifestait, je levai la main et proposai une phrase que j'avais entendue dans la bouche de mon oncle Bob quand il devait se rendre quelque part généralement. « Tempus fugit », le temps s'enfuit. Madame Young acquiesça et nous cita d'autres exemples comme « ad hoc »,« de facto » ou « bona fide ». Après le cours, elle me retint pour me dire qu'elle se souvenait bien de ma mère et qu'elle était triste que je l'ai perdue si jeune. Je la remerciai, sans pleurer, pas après 6 ans, mais je sentis une boule dans ma gorge. « Tempus fugit est un bon exemple », dit-elle. Mais le temps ne s'enfuit pas toujours, comme le savent tous ceux qui ont dû attendre quelque chose un jour. Je préfère « tempus est umbra in mente », que l'on pourrait traduire en gros par « le temps est une ombre dans l'esprit ». Je pensais souvent à cette phrase durant mon séjour à Deep Malin. Comme on était enterré vivant, le seul moyen de différencier la nuit du jour, c'était que de jour, à l'extérieur, pas dans notre cachot, les soldats de la nuit venaient moins fréquemment, et quand ils venaient, leur aura bleue était réduite, leur visage humain plus apparent, des visages malheureux dans l'ensemble, fatigués, creusés. Et je me demandais si ces créatures n'avaient pas, de leur vivant, conclu une sorte de pacte diabolique qu'elles regrettaient maintenant qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Peut-être pas Aaron, ni quelques autres, et certainement pas le grand intendant, mais le reste, possible. Ou alors je prenais mes désirs pour des réalités. Je pense avoir réussi à conserver une assez bonne notion du temps au cours de ma première semaine dans ce cachot, mais je finis par perdre le fil. Je crois qu'on nous conduisait au stade tous les 5 ou 6 jours pour la récréation, mais généralement cela se résumait à un simple entraînement, sans une goutte de sang versée. À une exception près, la fois où Yano, désolé de vous bombarder de noms, mais n'oubliez pas qu'il y avait 30 prisonniers en plus de moi, voulut frapper Eris avec son bâton, violemment. Elle esquiva le coup. Il manqua sa cible 1 kilomètre et se démit l'épaule. Je n'étais pas surpris. Yano, à l'image de la majorité de mes compagnons, n'avait jamais été le sosie de Dwayne Johnson. Et le fait de rester enfermé presque toute la journée ne l'avait pas aidé à se muscler. Pour ma part, je faisais de l'exercice dans ma cellule, mais j'étais quasiment le seul. Un autre prisonnier, Fried, remit l'épaule de Yano quand on retourna dans le vestiaire. Il lui demanda de ne pas bouger, lui prit le coude et tira d'un coup sec. J'entendis craquer l'articulation. « Bravo !» dis-je tandis qu'on nous ramenait à nos cellules. Fried haussa les épaules. « J'étais médecin, à la citadelle, il y a des années de cela. » Mais je n'entendis pas le mot « année ». Je sais que je l'ai déjà dit, et vous savez que je l'ai déjà dit, mais il faut que je vous explique, que j'essaie du moins, pourquoi il y avait toujours un décalage dans mon esprit. J'entendais bien « année », mais quand je posais des questions sur MPIS et que ce mot était utilisé, il semblait représenter des choses différentes selon les personnes. À mesure que les semaines, j'emploie ce terme délibérément, passaient, je commençais à me faire une idée de l'histoire d'MPIS, sans pouvoir cependant établir une chronologie cohérente. Dans les réunions d'AA de papa, on conseillait aux nouveaux venus d'ôter le coton de leurs oreilles et de se le fourrer dans la bouche. Apprendre à écouter pour être à même d'écouter pour apprendre, disait-il. Je posais parfois des questions, mais la plupart du temps, je tendais l'oreille et je la bouclais. Les autres parlaient. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ils se disputaient pour savoir quand ceci ou cela s'était produit, si ça s'était réellement produit. Ils racontaient des histoires que leur avaient racontées leurs parents et leurs grands-parents. Une image commença à se former, floue, mais c'était mieux que pas d'image du tout. Jadis, il y a très longtemps, la monarchie avait été une véritable monarchie, avec une véritable armée, et peut-être même une marine, pour ce que j'en savais. Un peu comme l'Angleterre, je suppose, à l'époque de James, Charles et Henry, celui qui avait eu toutes ses épouses. Ces monarques d'Empis, j'ignore s'il y avait eu une ou plusieurs reines parmi eux, c'était une des nombreuses choses que j'ignorais, étaient prétendument choisis par les dieux. Nul ne contestait leur pouvoir. Eux-mêmes étaient presque considérés comme des divinités, et pour autant que je pouvais en juger, c'était le cas. Était-ce si difficile de croire que des rois, et peut-être aussi des membres de leur famille, pouvaient entrer en lévitation, terrasser des ennemis d'un seul regard ou guérir les maladies d'une simple imposition des mains dans un pays où on croisait des sirènes et des géants? À un moment donné, les Galliens étaient devenus la famille régnante. D'après mes camarades de détention, c'était, vous l'avez deviné, il y a bien des années. Mais au fil du temps, 5 ou 6 générations, supposais-je, les Galliens avaient desserré les taux de leur pouvoir. Et durant la période qui avait précédé l'arrivée du Gris, Empis n'avait plus eu de monarchie que le nom. La famille royale avait conservé son aura, mais elle n'était plus la référence. Prenez l'exemple de la citadelle. Dogfried m'avait appris qu'elle était gouvernée par un conseil des 7, dont les membres étaient élus. Il parlait de la citadelle comme d'une cité importante, alors que j'avais plutôt l'image d'une bourgade prospère grâce au commerce entre le front de mer et l'Illimar. Peut-être que d'autres bourgades ou principautés comme Disc et Ulum, avant qu'elles succombent aux délits religieux, lui ressemblaient, chacune ayant sa spécialité, les habitants vacants à leurs activités. Les détenus, dont la plupart étaient devenus mes amis, une amitié dénaturée par leur conviction que j'étais, ou pourrais être, un prince doté de pouvoirs magiques, savaient peu de choses sur l'Illimar et le palais, non pas qu'il s'agisse d'un secret bien gardé, mais parce qu'ils s'occupaient avant tout de leur propre vie et de leur ville. Ils versaient un tribut au roi Yann, Double croyait dur comme fer qu'il s'appelait le roi Yam, comme la confiture, car les sommes réclamées étaient modiques, et parce que l'armée, considérablement réduite à l'époque et rebaptisée « garde du roi », entretenait les routes et les ponts. Tribut qui servait également à payer des types que Tom appelait « les shérifs à cheval » et « Amit, la horde », ce sont les mots que j'entendis. En outre, les habitants d'Empis versaient leur tribut, car Yann était « tadam, le roi ». Et parce que les gens ont tendance à respecter les traditions. Sans doute rechignaient-il un peu, comme toujours, quand il s'agit de payer des impôts, puis ils oubliaient, jusqu'à l'échéance suivante. Et la magie dans tout ça, me demanderez-vous. Le cadran solaire, les soldats de la nuit, ces constructions qui parfois semblaient changer de forme, tout cela leur paraissait naturel. Si vous trouvez ça bizarre, imaginez un individu de 1910 catapulté en 2010 dans un monde où des gens traversent le ciel dans de gigantesques oiseaux de métal et se déplacent dans des voitures pouvant rouler à 200 km/h. Un monde où tout le monde se promène avec un ordinateur ultra-puissant dans sa poche. Ou bien, imaginez quelqu'un qui n'a vu que des films muets en noir et blanc et qu'on propulse au premier rang dans une salle de cinéma IMAX pour regarder Avatar en 3D. On s'habitue aux choses extraordinaires. Voilà tout. Les sirènes et IMAX, les géants et les téléphones portables. Si ces choses existent dans votre monde, vous les acceptez telles qu'elles sont. C'est merveilleux, non? Mais vu sous un autre angle, c'est affreux. Vous trouvez que Gog Magog est effrayant? Notre monde est assis sur un arsenal nucléaire capable potentiellement de le détruire. Si ça, ce n'est pas de la magie noire, je ne sais pas ce que c'est. 2. À Empis, les rois se succédaient. Pour ce que j'en savais, Les corps des Galiens étaient conservés dans un des immenses bâtiments gris devant lesquels on était passés, Radar et moi, en suivant les repères de M. Boditch jusqu'au cadran solaire. Le roi Yann avait été oint conformément au rituel. Bolt parlait à ce sujet d'une coupe sacrée en or. Jaka affirmait que l'épouse de Yann était la reine Clara, ou Kara, mais la plupart des autres affirmaient qu'elle s'appelait Cora, et qu'elle était la cousine du roi au troisième degré. Aucun ne savait avec exactitude combien ils avaient eu d'enfants. Certains disaient 4, d'autres 8, 10, jurait Amit.
Ces deux-là, ils devaient baiser comme des lapins royaux,
dit-il. D'après ce que j'avais appris de la bouche de la jument d'une princesse, ils se trompaient tous. Il y avait 7 enfants, 5 filles et 2 garçons. Et c'est là que l'histoire devenait intéressante à mes yeux. On pourrait même dire pertinente, bien qu'elle demeure désespérément floue. Le roi Yann tomba malade. Son fils Robert, qui avait toujours été le favori, l'aîné des 2 garçons, attendait en coulisses, prêt à porter à ses lèvres la coupe sacrée que j'imaginais gravée de papillons. Eldon, le frère cadet, tomba rapidement dans l'oubli. Sauf pour Léa, qui l'idolâtrait.
De la vie générale, c'était un horrible boiteux, me confia Domi un soir. Il n'avait pas seulement un pied beau, mais 2.
Et des verrues partout, ajouta Oka.
Et une bosse sur le dos, ajouta Frémy.
J'ai entendu dire qu'il avait une grosseur dans le cou, ajouta Stooks.
Je trouvais très intéressant, voire éclairant, qu'il parle d'Elden, le prince hideux et boiteux, presque oublié, et de Flight Killer, comme s'il s'agissait de 2 personnes différentes, ou comme d'une chenille qui se transforme en papillon. Une partie, au moins, de la garde du roi s'était transformée, elle aussi, me semblait-il, en soldat de la nuit. Eldon jalousait son frère, et sa jalousie était devenue de la haine. Tous mes compagnons semblaient se rejoindre sur ce point. Et quoi de plus normal? C'était une histoire classique de rivalité entre 2 frères qui aurait eu sa place dans n'importe quel conte de fées. Je savais que les bonnes histoires n'étaient pas toujours des histoires vraies, ou totalement vraies, mais celle-ci paraissait assez plausible, la nature humaine étant ce qu'elle est. Eldon décida de s'emparer du pouvoir, par la force ou par la ruse, et de se venger de sa famille. Et si Empis devait en souffrir, tant pis. Le gris était-il apparu avant ou après qu'Eldon devienne Flight Killer? Avant, disaient certains de mes compagnons. Je pensais que c'était plutôt après, et qu'il en était la cause, en un sens. J'étais sûr d'une chose, par ailleurs, de la manière dont il avait acquis son nouveau nom.
« Il y avait des papillons partout à Empis, » dit Dogfried, « à tel point qu'ils obscurcissaient le ciel. »
C'était après l'entraînement, le jour où il avait remis en place l'épaule de Yano. On regagnait nos cachots en marchant côte à côte. Il parlait à voix basse, presque en chuchotant. C'était plus facile de bavarder en descendant l'escalier, d'autant qu'on avançait lentement à cause de la fatigue. Son histoire me rappela ces pigeons migrateurs qui, une année, avaient assombri le ciel du Midwest, avant qu'ils soient exterminés par les chasseurs, évidemment. Mais qui chasserait des papillons monarques?
Ils étaient bons à manger? Demandai-je.
Après tout, les pigeons migrateurs avaient disparu pour cette raison. C'était de la viande bon marché. Fried ricana.
Les monarques sont toxiques, Charlie. Si tu en manges un, tu peux t'en tirer avec de simples maux d'estomac. Si tu en manges une poignée, tu peux en mourir.
Comme je te le disais, il y en avait partout, mais ils étaient particulièrement concentrés à Lillimar et dans les banlieues environnantes.
Avait-il prononcé le mot « banlieue » ?
Les gens cultivaient des asclépiades dans leur jardin pour nourrir les larves et des fleurs dont les papillons pouvaient boire le nectar. Ils étaient considérés comme les porte-bonheurs du royaume.
Je pensais à toutes les statues saccagées que j'avais vues, leurs ailes déployées transformées en gravats.
On raconte qu'après le massacre de sa famille, Eldon, unique survivant, parcourut les rues vêtues d'une robe rouge ornée d'un col d'hermine blanc comme neige, coiffée de la couronne en or des Galiens. Le ciel était noir de monarques, comme toujours. Mais chaque fois qu'Eldon levait les mains, des milliers d'entre eux dégringolaient.
Lorsque les habitants quittèrent la ville, seuls quelques-uns restèrent, rendirent hommage au roi et lui jurèrent fidélité. Ils durent traverser des monticules de papillons morts. À l'intérieur de la ville, ces monticules atteignaient 3 mètres de haut, dit-on. Des millions de monarques morts dont les couleurs éclatantes viraient au gris.
C'est horrible, dis-je. On avait presque atteint les cellules. Tu crois à cette histoire ?
Je sais que tous les monarques sont morts également à l'intérieur de la citadelle. Je les ai vus tomber du ciel de mes propres yeux. Les autres te diront la même chose.
Il se frotta les yeux et me regarda.
Je paierai cher pour voir un papillon quand on est dehors sur le terrain. Un seul. Et je suppose qu'ils ont tous disparu.
Non, j'en ai vu plein.
Il agrippa mon bras avec une force étonnante pour un si petit homme. Toutefois, je me disais que si le 1 contre 1 avait lieu, le doc tiendrait à peine plus longtemps que Hamet.
C'est vrai? Tu le jures?
Oui.
Sur la tête de ta mère?
Un des gardes se retourna, l'air mauvais, et fit un geste menaçant avec sa badine avant de regarder devant lui de nouveau.
Sur la tête de ma mère,
murmurai-je. Les monarques n'avaient pas disparu, et les Galliens non plus. Pas tous, du moins. Ils avaient été maudits par le pouvoir qui vivait maintenant en Eldon. Ce même pouvoir, supposais-je, qui avait transformé en ruines les plus proches banlieues. Mais ils étaient vivants. Je me gardais bien de le dire à Frid, cependant. Cela aurait pu s'avérer dangereux pour nous deux. Je repensais à l'histoire que m'avait racontée Woody, comment Anna avait pourchassé jusqu'aux portes de la ville les derniers membres de sa famille, et comment elle avait, d'un coup, arraché la tête de son neveu Aloysius.
Quand Anna est-elle apparue? Demandai-je.
Et pourquoi, si les géants vivent dans le nord?
Je ne sais pas, avoua Frid.
Je me disais que Anna était peut-être partie rendre visite à ses proches à Kratchi quand M. Boditch avait effectué sa dernière expédition pour apporter des pépites d'or, mais impossible d'en avoir le cœur net. Il était mort, et, je le répète, l'histoire d'Empis était floue. Ce soir-là, je demeurais éveillé un long moment. Je ne pensais pas à Empis, ni au papillon, ni à Flight Killer. Je pensais à mon père. Il me manquait et je m'inquiétais pour lui. Il croyait peut-être que j'étais mort, moi aussi, comme ma mère.